dans un lointain pays où les forêts sont si denses et les arbres si hauts qu'on ne devine pas les cimes, il était une fois une petite fille qui vivait avec toute sa famille. Sa maman était infirmière, son papa était militaire, et grâce à son métier, il connaissait très bien le chef des armées, lequel était aussi le chef de l'État, et, comme si cela ne suffisait pas, le grand empereur de ce lointain pays. En sa compagnie, le papa militaire voyageait dans le monde entier, et, de continents merveilleux et inconnus, il rapportait à chaque fois des perroquets aux couleurs chatoyantes, qui faisaient le bonheur de la petite fille, la préférée de son papa. Un jour, cependant, ce bonheur se mit soudain à vriller sur lui-même à la vitesse de l'éclair. Il donnait le tournis à tous ceux qui tentaient de s'en approcher pour le calmer. Quand enfin il s'arrêta de tourner, ce bonheur n'avait plus du tout la même tête. Et le papa militaire avait disparu, introuvable, envolé.
C'est tout ? Mais il commence pas très bien ton conte. Y a pas de sorcière, pas de pomme empoisonnée, y a pas de loup. Tiens, y a même pas d'ogre. Comment tu veux qu'on y croie à ton conte s'il y a pas d'ogre ?
Mais il y a un ogre, et peut-être même un loup si on cherche bien.
Bah alors, pourquoi t'en as pas parlé ?
Mais j'en ai parlé à demi-mot, et puis vous comprendrez plus tard. Vous savez, on n'est pas non plus obligé de tout raconter. Quand on ne veut pas tout dévoiler, ça s'appelle la pudeur. La pudeur des sentiments.
Mon père a eu pas mal de soucis, dans le sens où il travaillait pour Bokassa. Il était rebelle et ça ne plaisait pas à Bokassa. Et il était le garde du corps rapproché de Bokassa. Il a fait plusieurs épisodes de prison. Lorsqu'ils étaient en déplacement et que Bokassa fut tombé, il n'a pas pu retourner au pays. Donc il est émigré en France, qu'il a protégé. Il avait le régime de réfugié politique. Moi, je suis restée avec ma mère en Centrafrique et nous avions pu arriver ici uniquement le 21 juin 1990. L'arrivée en France a été assez violente pour moi. Nous étions dans un foyer au départ. Par la suite, nous étions dans un quartier populaire, comme
ouais,
on dit,
sûr.
Dans un immeuble au 8e étage, c'était très compliqué. Et puis, il y a eu quelques problèmes à la maison, d'ordre de violence surtout, parce que le comportement de mon père était devenu de plus en plus violent, de plus en plus agressif. Je ne reconnaissais plus ce père que j'adulais, que j'idéalisais, de par sa violence. En même temps, d'une manière ambivalente, il me valorisait beaucoup. À la maison, c'était celui qui me montrait son amour, toujours à applaudir dès lors que je récitais une leçon. Alors forcément, j'étais devenue une élève extrêmement douée, et ça, c'était pour lui faire plaisir. Voilà, je pense qu'à cet âge-là, déjà à 9-10 ans, je me projetais, je me disais que cette vie-là, je n'en voudrais pas. J'avais déjà à peu près les grandes lignes de la vie que j'aimerais pouvoir mener. Je voulais me sortir de ça.
La petite fille préférée de son papa se mit à grandir comme une herbe folle, libre et sauvage, beaucoup dehors, très peu dedans. Alors, elle découvrit la peinture et les artistes, la musique rock et métallique, les études de temps en temps. Car quand une petite fille vit beaucoup dehors et très peu dedans, elle n'a pas la chance d'étudier, en vérité.
J'ai eu une adolescence assez errante, assez... je pense que l'errance, c'est le bon mot. À l'époque, je peignais beaucoup la peinture. Pour moi, c'est moi, au fait. C'est compliqué à expliquer. Ma peinture, c'était un souffle de vie. Ouais. La peinture, pour moi, elle était vitale. Elle m'a aidée dans mon adolescence, surtout, à exprimer ce que je pouvais ressentir, ce que je vivais.
oui, elle vivait, la petite fille. Elle se sentait libre, ivre de vie. Mais un autre loup l'attendait, tapi dans l'ombre. Et ce loup était une maladie bizarre, dont le nom lui ressemblait étrangement. Quand les médecins en parlaient, ils ajoutaient toujours à la suite une farandole d'adjectifs qui se terminaient tous de manière identique. C'était une maladie inéluctable, indéboulonnable, inguérissable. La petite fille abandonna la faculté, passa de longs mois hospitalisée. Pourtant, entre deux séjours, elle trouva l'énergie de fonder une famille, de donner naissance à un bébé, puis d'ouvrir dans la foulée un restaurant dans lequel elle cuisinait de délicieuses feuilles de manioc et de liane, du bœuf en sauce et des poissons braisés. Pourtant, il manquait quelque chose. Mais quoi ? Elle avait un mari, une petite fille, un restaurant maintenant. Mais un sentiment qui était assoupi au fond d'elle-même se réveillait et remontait lentement à la surface. Alors elle sut. Elle se rappela qu'elle souhaitait, plus qu'aucune autre chose au monde, tracer sa propre trajectoire de vie, peut-être dans le but de se réparer elle, elle et toutes les autres petites filles, préférées ou non de leur papa. Elle décida donc d'empiler sur sa tête des dizaines de gros livres d'étudiants aux titres si alambiqués qu'un dictionnaire était le bienvenu pour les traduire. Et elle se mit en marche avec tous ses livres sur sa tête sans jamais en faire chuter un seul. Elle cuisina le jour, étudia la nuit, s'occupa de son bébé entre deux lectures et deux recettes. Elle étudia, étudia, étudia. Et puis, un jour, un diplôme lui tomba sur la tête.
Mais un diplôme, ça tombe pas sur la tête !
Mais si, cette petite fille, tout lui tombe toujours sur la tête. C'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'elle a accumulé tant de savoir et de connaissances à l'intérieur. Des choses humaines, essentielles, universelles.
Parce que j'ai soif de justice, je suis quelqu'un de très droite. Et cette droiture, c'est une exigence que je me donne dans le rapport aux autres. J'ai grandi dans l'insécurité. Et aujourd'hui, j'ai besoin de la justice, du droit, de quelque chose qui peut venir dire stop. Et moi, je n'ai rien trouvé d'autre que pour voilà, que le droit. En tout cas, aux yeux de mon enfance, hein, quand j'étais petite, j'imagine que voilà, je me suis construite un petit peu dans cette idée d'avoir quelque chose ou quelqu'un qui puisse venir arrêter la situation. Et c'est après que j'ai compris qu'il y avait un surmoi et que tout homme était doté, sauf pathologie, de cette capacité de s'auto-arrêter. Au niveau de la distance, je suis habituée à encaisser les choses. C'est quelque chose de tout à fait normal pour moi. Je ne vais pas être choquée par des situations complètement... parce que ça fait partie de mon parcours. Ce serait peut-être beaucoup dire que rien ne m'étonne ni me touche. Bien sûr qu'il y a des situations qui sont touchantes. Mais ce n'est pas moi qui les vis. Je peux être touchée par le fait de me dire tout petit bout de femme, tout petit bout d'être comme ça porte autant sur son dos. Ça peut... mais j'ai foi en ce que... en capacité des gens. J'ai foi au fait... que l'on croit souvent que l'on n'est pas capable, mais en fin de compte, tout le monde est toujours capable de porter le pire. Et donc, les gens viennent me déposer des choses terribles de leur vie, et moi, ce que je leur envoie, c'est « Vous allez y arriver, vous en êtes capable, vous ne le savez pas encore, mais vous pouvez. »
Mais, on comprend rien, nous. C'est quoi la fin du compte ?
Mais c'est fini. Vous n'avez pas écouté la dernière phrase. La dernière phrase, elle dit « Vous ne le savez pas encore, mais vous pouvez y arriver. » Ça veut dire que « Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, elles peuvent. » Elles peuvent y arriver. Tout est là, tout est dit. Mais c'est quoi cette histoire? Un conte de fées? Une confession mystère? Un manuel de vie à l'usage des enfants du monde? Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais je sais toute l'admiration que j'ai pour vous, pour la petite fille que vous avez été. Une enfant au milieu de la folie des hommes. Une femme qui est apparue sur mon chemin, qui a disparu puis réapparu à nouveau. Vous avez accepté que je vous raconte. Vous avez changé d'avis, plus aucun signe de vie. Une année a passé. Je n'ai jamais lâché. C'était étrange à quel point vous convaincre de ne pas renoncer devenait vital. J'ai utilisé pour cela tous les procédés à ma disposition. La parole, les mots, le pouvoir des mots. Mon dernier message ne disait-il pas « J'ai besoin de vous ». Entendez-moi, prenez la mesure de ma ténacité. Et vous êtes revenu vers moi, vers nous. Une rance à soi, un monde à vous. Vous aviez tant à dire, et tant que vous ne pouviez dire. Que dire de plus? Que vous avez trouvé la sérénité à l'abri des remparts de Dinan. Cette masse rocheuse vous semble si vivante, si vibrante, si magnétique. Que vous êtes une personne riche, énigmatique, profonde, si pudique. Que dans l'exercice de votre métier, vous accomplissez des miracles, telle une magicienne. Oui, on me l'a dit et redit. Que votre authenticité, votre humour décapant et votre rire me réjouissent, m'embarquent, me portent. Que vous aimez écouter du black metal et de la musique pygmée, que ces contrastes m'enchantent, que votre désir de toujours partir sans laisser de traces me laisse enfin en paix. Ne vous donnez plus cette peine avec moi. Un jour, j'ai écrit dans un livre que grandir, c'était avoir les traces des autres sur sa peau. Je confirme, cher Négla, votre trace est bien là. Et comme la foi qui vous accueillit en chemin pendant votre maladie, c'est quelque chose qui restera. C'est quelque chose qui ne partira pas.
J'ai décidé d'écrire au pape. J'ai le prêtre qui était venu, je lui ai dit, je vais écrire au pape, parce que ce que je vis est très particulier. Il me dit, mais non, personne n'écrit pas. Je lui ai dit, je vais. Et pourquoi? Il n'a pas une boîte aux lettres? Il a forcément une boîte aux lettres comme tout le monde. J'écris. Donc il ne voulait pas me donner l'adresse. Mon mari a trouvé l'adresse. J'écris. Le jour de mon anniversaire, je reçois une enveloppe toute blanche. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu la photo du pape. J'avais une réponse. C'est quelque chose qui restera, ça. C'est quelque chose qui ne partira pas. Parfois, je suis en colère et je prie plus, je fais la gueule. Mais je dis à Dieu que je fais la gueule.